Je vais passer la parole à Joseph Bahout, qui est enseignant et chercheur à l'Institut d'études politiques de Paris, et on aura l'occasion effectivement de revenir sur tous ces aspects au moment du débat.
Merci Khadija. Je dois vous avouer que je prends la parole avec beaucoup de crainte, parce que d'abord, c'est toujours difficile de parler après autant de monde, beaucoup de choses ont été dites, mais surtout parce que ce n'est vraiment pas un reproche. J'ai très peur que mon propos, dont Khadija m'a demandé de le centrer sur la problématique libano-libanaise et libano-syrienne, ne tombe un peu à plat après des considérations un peu transversales, macro-stratégiques, et parfois de façon très intéressante philosophique, comme par exemple ce que disait Thierry sur le couple force et droit, etc. Donc mon propos va être très prosaïque, je m'en excuse dès maintenant. D'autre part, je vais essayer, parce que j'avais en fait préparer un propos qui était centré sur le syro-libanais, après avoir entendu ce qui s'est dit depuis tout à l'heure, qui est très interpellant, s'il me reste quelques minutes, de réagir sur les considérations globales qui ont une relation avec ce que je vais dire. Donc, comme on m'avait demandé de réfléchir plutôt à l'espace syro-libanais dans le contre-coup de la guerre de cet été, peut-être un peu plus longtemps, je pense qu'il est effectivement, d'après tout ce qu'on a compris jusque-là, intéressant de dire que la guerre de cet été a encore une fois montré, s'il en était besoin, que les problématiques en fait sont inséparables et qu'il y a une sorte de linkage organique entre les théâtres de conflictualité de ce nouveau grand élargi Moyen-Orient, traduction de Broader, etc. Et que donc, dans la guerre de cet été, le Liban a en fait retrouvé une vocation malheureuse qu'il a toujours eue, malheureusement, qui est celle d'être le miroir ou la caisse de résonance de tous les conflits de la région. C'est-à-dire que dans la guerre de cet été, on avait à la fois la dimension irano-américaine, puisque d'ailleurs certains même protagonistes l'ont dit, certains ministres du gouvernement Señora l'ont dit, c'est une guerre entre les États-Unis et l'Iran. Il y avait une dimension israélo-palestinienne, puisque le lien, s'il n'est pas opérationnel direct, mais il est idéologique, parfois organique ou transitif entre le Hamas et le Hezbollah, et d'autres organismes, disons, radicaux sur le territoire palestinien. Il y avait la dimension syrienne, évidemment, puisqu'on retrouvait là le retour diplomatique et peut-être même militaire de la Syrie sur le territoire libanais. Et il y avait des enjeux aussi libano-libanais. Donc je crois qu'on a retrouvé là toutes ces crises ensemble. Et je pense qu'il est donc intéressant de partir de cette guerre-là. Mais je voudrais revenir en arrière pour élargir la focale et dire qu'à mon sens, ce qui se passe actuellement sur le terrain libanais et sur le terrain syro-libanais est en fait informé et ne peut être compris, ne saurait être compris sans retour à ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir à la chute de Bagdad, parce qu'il faut peut-être aller jusque-là, mais au moins à l'été 2004, c'est-à-dire l'été où s'est constitué, effectivement, juridiquement, je pourrais dire, le nœud de toutes ces crises, c'est-à-dire la résolution 1559. J'ai beaucoup parlé de cela ici, auparavant. Il y a un papier, d'ailleurs, qui est publié par l'IFRI de moi sur la résolution 1559. Je ne vais pas revenir dans les détails. Mais déjà, dans la 1559, on a toutes ces crises à la fois. Et c'est très intéressant de regarder cette résolution, pas seulement d'un point de vue d'études de cas sur le Liban ou sur la Syrie ou sur l'Iran, etc., mais même d'un point de vue presque de philosophie juridique internationale. Je ne suis pas du tout outillé pour cela, mais j'invite ceux qui le sont à le faire. Je crois qu'il y a, avec les résolutions post-guerre d'Irak, et la 1559 en est une, quelque chose de très nouveau dans la culture onusienne, et je ne sais pas si on peut probablement réfléchir à tout ça, c'est de mettre dans un texte de résolution plusieurs conflits à la fois, c'est-à-dire plusieurs dossiers à la fois. Dans la 1559, on a un lien direct avec le Hezbollah et l'Iran, c'est-à-dire la nécessité de désarmer le Hezbollah. On a le problème libano-syrien, le retrait des forces syriennes. On a quelque chose qui a rapport avec l'équilibre intra-palestinien, c'est-à-dire la nécessité de désarmer les camps palestiniens au Liban et de traiter la question des réfugiés, ce qui est tout à fait une autre question. Et il y a un point de constitutionnalité libanaise propre et pure qui est l'injonction de revenir à la démocratie et de ne pas renouveler le mandat du président de la République à l'époque, ce qui a été fait par la Syrie de façon, disons, contraignante, pour le moins. Donc c'est une résolution intéressante, puisque déjà on nouait toutes ces crises, et je pense que si la guerre de cet été a retrouvé cet arc de crise dans son ensemble, c'est que cette guerre, et c'est un peu l'hypothèse que je fais depuis un moment, était en fait la guerre d'application de la 1559 qui ne pouvait être appliquée autrement. Donc je crois que certains l'ont sous-entendu ici. Mais je crois qu'on ne peut pas comprendre tout cela si on ne voit pas, c'est ce que Khadija disait un peu dans son introduction, que le but de guerre, au fond, et je crois qu'Olmert l'a dit presque ouvertement à la tribune de la Knesset, était de faire appliquer la résolution 1559. Il l'a dit, je crois, dans son discours du troisième jour du conflit, ce qui est quand même assez ahurissant, puisque, à ma connaissance et à la vôtre aussi, Israël n'est pas mandaté par les Nations Unies pour appliquer une résolution du Conseil de sécurité. Bon. Je voudrais me pencher essentiellement sur deux points, et s'il me reste un peu de temps, réfléchir sur un troisième. Le premier point, c'est proprement la question syro-libanaise, et le deuxième, ce sera le conflit ou la crise libano-libanaise avec un point d'actualité sur ce qui se passe en ce moment. Rapidement, je passerai très vite sur la considération, disons, structurelle, la considération un peu de temps long qui informe la relation syro-libanaise pour dire, et je ne vous apprends rien probablement, que je crois qu'on est revenu avec la façon dont la Syrie a été retirée du Liban, et j'insiste sur la façon avec laquelle la Syrie s'est retirée du Liban en avril 2005, le 26 avril, après l'assassinat de Rafik Hariri. On est revenu en plein à une problématique qui, à mon sens, n'a jamais disparu et qu'on a voulu probablement occulter sous des formes et d'autres, et l'accord de Taif en a été une, problématique indépassable qui est celle du double complexe entre la Syrie et le Liban, c'est-à-dire le complexe ou la double perception de complexe. La première qui est celle que pour tous les pouvoirs syriens, pour tous les gouvernements syriens, pour toutes les élites syriennes, il y a une illégitimité congénitale de l'espace libanais. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir un jour ou l'autre voir et résoudre. Et là, si je dis ça, c'est juste pour éclairer un nota bene rapide sur les ambitions ou les velléités de certains États occidentaux aujourd'hui de pacifier la relation syro-libanaise par le biais d'un changement de régime à Damas. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir sur ça. Je ne suis pas sûr que les élites soit libérales des années 40 et 50, soit bassistes, mais non assadiennes des années 60 et jusqu'en 70, pour ne pas parler de Assad, n'est pas un regard irrédentiste et unificateur vis-à-vis du Liban. Je crois que c'est quelque chose qu'il va falloir que les Occidentaux comprennent et que les Libanais comprennent aussi. Et l'opposition syrienne peut-être, mais Farouk n'est pas là pour en parler. L'autre complexe ou l'autre sentiment, à mon avis structurel, qui est revenu très fort, et là ça va me permettre d'aller un peu plus en détail sur l'assassinat de Hariri, sur lequel je voudrais dire deux mots, c'est que l'espace libanais est redevenu perçu par la Syrie ce qu'il a toujours été depuis les années 40, à savoir un espace où se fomentent les complots anti-syriens. C'est-à-dire que dès les années 40, les premiers coups d'État en Syrie après la défaite israélo-arabe de 48, déjà à l'époque, les premiers coups d'État des colonels Husni Zaim, etc., percevaient le Liban comme un État, comme un espace de complot contre le régime syrien. C'est revenu en force, et je pense personnellement, c'est l'hypothèse que je fais, je vais la développer en trois minutes ici, que c'est ce qui, à mon avis, pousse les Syriens, si c'est eux, à assassiner Rafik Hariri le 14 février 2005. Je m'explique, et ça c'est mon deuxième point sur lequel je voudrais aller un peu plus loin, puisqu'il retrouve ici les conflictualités moyen-orientales. Je pense qu'il s'agit de regarder l'espace syro-libanais, et en disant cela, il n'y a aucune charge idéologique ou nationaliste, hein. Je suis un bon Libanais, je vous rassure, mais je crois qu'il y a de facto un espace, un continuum syro-libanais dans lequel il s'agit de comprendre les choses d'un point de vue, je dirais, j'invente un néologisme, ethno-géopolitique. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une continuité ethno-géopolitique dans l'espace libano-syrien, sans laquelle il est très difficile de comprendre à la fois le fonctionnement de la Syrie et le fonctionnement du Liban, pour ne pas parler du fonctionnement des deux ensemble. Dans ce continuum ethno-géopolitique, toute la question du couple majorité-minorité prend son sens uniquement dans cet espace. Je donne juste un exemple. Lorsqu'aujourd'hui on parle, par exemple, des craintes sunnites ou chiites au Liban, elles ne se comprennent que dans le continuum syro-libanais. C'est-à-dire que, je vais plus loin, lorsque la Syrie se retire du Liban, pourquoi la paranoïa s'installe dans le camp chiite, pour parler rapidement, c'est que s'il y a un projet de renversement du régime alaouite en Syrie, régime alaouite perçu par le chiisme moyen-oriental, qu'il soit irakien ou libanais, comme une sorte d'alliance ou d'allié par procuration, il y a la crainte qu'il s'installe à Damas un régime sunnite, et donc que dans l'espace syro-libanais, le sunnisme devienne majoritaire et que le chiisme libanais, qui jusque-là était la force montante, ne perde ses cartes. Donc je crois que c'est essentiel de comprendre cela. Ayant dit ceci, je suis prêt à aller plus loin dans les questions-réponses, parce que là je suis obligé d'aller vite, je crois que si l'on met de côté l'hypothèse ou l'éventualité que les Syriens, le régime syrien ait tué Rafik Hariri dans un acte fou, gratuit et pour moi irrationnel de vengeance pure, pour on ne sait quelle raison, pour avoir peut-être fomenté la 1559 avec ses amis à l'Élysée, ce qui d'ailleurs devrait donner à beaucoup de gens ici de mauvaise conscience, probablement a posteriori. Je crois que si l'on exclut cette hypothèse, la seule hypothèse réaliste est que le régime syrien a assassiné le premier ministre libanais dans un acte préemptif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la Syrie savait qu'elle sortait du terrain libanais, il s'agissait pour elle de casser la colonne vertébrale du sunnisme syro-libanais pour empêcher que l'application de la 1559 ne veuille dire forcément le renversement du régime à Damas. Je crois que c'est un peu ce que sous-entend Richard Labévière dans son livre sur le grand retournement, où il n'y a pas que des inepties à mon sens, mais personnellement c'est une hypothèse que je fais depuis le 15 février 2005, c'est-à-dire depuis que j'étais à Beyrouth ce jour-là, depuis que cette explosion donc a secoué nos vies et nos maisons. Donc ayant dit cela, je dirais que à partir de là, je fais aussi l'hypothèse que la tension sunnito-chiite qu'on retrouve aujourd'hui, donc à partir d'octobre 2006 à Beyrouth, et qui est la conséquence directe, diront certains, de la guerre de cet été, il semble que si l'on accepte ce que je viens de dire, la tension sunnito-chiite au Liban est devenue structurelle à partir du moment où l'assassinat de Rafiq Hariri replaçait justement cette conflictualité-là sunnito-chiite au centre du jeu et ouvrait l'espace syro-libanais sur l'ensemble des crises de la région et importait probablement la tension irakienne vers l'espace proche-oriental et l'espace syro-libanais. Voilà pour ma première partie. Très très rapidement, je suis prêt à développer parce que j'ai conscience que tout ce que je viens de dire est peut-être pour le moins confus. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau intra-libanais à partir de ces quelques considérations? Je crois que depuis donc le 14 février 2005, donc cette date funeste de l'assassinat de Hariri, on peut dire que le pays vit une sorte de transition interminable, c'est-à-dire de révolution ou de transition qui n'a toujours pas connu son terme, qui n'est toujours pas arrivé à un terme. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails de cette transition et de cette révolution, mais je voudrais mettre l'accent sur quelque chose qui aujourd'hui explique la tension irrésolue et à mon sens difficilement solvable qui se joue actuellement, nonobstant les initiatives de la Ligue arabe, les efforts des uns et des autres. Je crois que ce qui se passe depuis donc la fin de l'ordre syrien au Liban, c'est-à-dire avec l'assassinat de Hariri et le retrait par la force de la Syrie, du facteur syrien de la vie politique libanaise, il y a deux récits qui sont en train de s'installer dans la société politique libanaise et dans la société libanaise dans son ensemble, dans la société civile libanaise, des récits au sens profond du terme, au sens de rigueur, c'est-à-dire des récits qui pratiquement fondent deux visions de la libanité et qui sont aujourd'hui très informateurs des modes de pratique politique. Et je pense que si ces deux récits continuent à s'ancrer dans la société politique libanaise, le conflit et le clivage intra-libanais devient de plus en plus essentialiste, disons, un conflit qui ne peut plus être médié par le seul troc des intérêts. Alors ce conflit, et c'est exactement ce qu'on entend depuis 2-3 semaines, et que vous entendez à la télévision même française, c'est cet échange d'accusations très profondes entre les deux camps libanais. Alors, je ne vais pas ici rentrer, je ne fais surtout pas de polémique, je ne veux pas dire comme certains de mes collègues libanais, d'ailleurs, avec qui j'ai débattu à la télévision française il y a quelques jours, qui me disaient que le 1,5 million de personnes qui sont dans la rue aujourd'hui à Beyrouth, que sur le 1,5 million de personnes qui sont aujourd'hui dans les rues de Beyrouth, il y a probablement 1 million de Syriens. Je l'ai entendu. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de considération, parce que ça se saurait quand même s'il y avait 1 million de Syriens à Beyrouth. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui deux Libans. Il y a deux Libans très fortement, et chacun de ces deux Libans a sa ressource médiatique, sa ressource internationale ou régionale, sa ressource financière et son stock de mobilisation idéologique et communautaire. Alors les deux discours sont très profondément irréconciliables, et ils sont nettement irréconciliables de plus en plus, je passe les détails libanais, sur la vision qu'ils ont de la communauté internationale. C'est sur cela que je voudrais réfléchir un peu, parce que ça me permettra de revenir aux points qui ont été soulevés. Pour le camp du 14 mars, il existe quelque chose qui est normativement positif et acceptable, qui s'appelle la communauté internationale, qui est une sorte d'entité kantienne, je pourrais dire, morale, porteuse de libération, etc., incarnée par l'ONU et le Conseil de sécurité. Les succédanées ou les produits de cette communauté internationale sont acceptables en bloc et même souhaitables, à savoir donc la résolution 1559, la résolution créant le tribunal international après l'assassinat de Hariri, et la résolution 1701 qui met fin à la guerre, et la création de la FINUL qui met en œuvre et qui renforce cette résolution. À contre-pied de cela, on a une vision, celle du Hezbollah pour dire en gros, mais celle de l'opposition de plus en plus, de la communauté internationale qui est en fait tout à fait à l'opposé, qui est presque diabolisatrice, qui consiste à dire la communauté internationale n'est en fait que la feuille de vigne, c'est le nom qui sert de feuille de vigne à la volonté américaine dans la région, dont on voit les ravages depuis la guerre d'Irak et dont on voit les ravages se rapprocher de jour en jour sur les rives de la Méditerranée. Cette communauté internationale a couvert la guerre de cet été en 2006, donc pour appliquer la résolution 1559, et la majorité au pouvoir au Liban, c'est-à-dire le gouvernement Senyora, à part qu'il est le suppôt de cette communauté internationale, a été sinon le complice passif de cette guerre, mais l'initiateur de cette guerre, au moins le complice passif de cette guerre, en la laissant se perpétuer. Je crois que ce sont des accusations que vous avez entendues en direct sur les écrans ici, dans le discours de Hassan Nasrallah d'il y a deux ou trois semaines, et la réponse de Fouad Senyora ou même de Walid Jumblat, parce qu'elle est beaucoup plus, elle est moins vernie que celle de Fouad Senyora, qui est essentiellement de dire, et il le dit très clairement, mot à mot, le Liban ne pourra survivre face au monstre syrien que le jour où le tribunal international servira de rempart contre les assassins de Damas. Donc c'est un peu le discours. Donc je crois là qu'on a deux lectures extrêmement antagonistes des choses, et si j'ai voulu passer par là, c'est pour réfléchir justement à ce qui a été dit tout à l'heure. Je crains que dans le petit débat, ce n'est pas une controverse, entre l'ambassadeur Gouyette et Dominique David, je crains que l'avenir, même si aujourd'hui François Gouyette a raison sur l'aspect peut-être positif et porteur d'espoir de la présence de la FINUL au Liban et de l'européanisation de la crise libanaise, j'ai bien peur que si les dynamiques dont je viens de parler, toutes les dynamiques, c'est-à-dire qui sont en germe depuis la 1559, en passant par l'assassinat de Hariri, se poursuivent, le scénario où les craintes de Dominique David ne soient plus ou moins confirmées. Alors moi, ce que je crains, personnellement, vous m'excusez de faire un peu de prospective, mais c'est un peu le délice des politologues, puisque on sait très peu de choses sur le passé, on est de très mauvais historiens, donc on s'amuse à faire des plans sur la comète. Monsieur Chevalier, professeur, vous m'excuserez. Donc, je crains très fort que le mécanisme soit le suivant. Pour une raison double, une raison externe ou induite par l'international et une raison induite par l'interne, il y ait un enlisement de l'internationalisation, c'est-à-dire de la 1701 et de la FINUL+, dans les sables mouvants de la politique libano-libanaise. D'un point de vue occidental, il existe aujourd'hui des voies, au premier chef desquels les voix américaines et françaises, je suis désolé de le dire, et là on est complètement dans quelque chose d'assez, à mon avis, intéressant à analyser, c'est-à-dire comment sur le seul dossier libanais il existe une sorte de bouchisme français, alors que sur tous les autres dossiers il y a quelque chose qui continue à s'agripper au reste de la politique arabe de la France, entre guillemets, quelque chose qui d'ailleurs lui-même demande à être expliqué. Donc une voix franco-américaine qui a tendance à vouloir prendre le dossier libanais vers quelque chose qui ressemblerait, je suis très, très schématique et très caricatural, à du chapitre 7, c'est-à-dire de placer le Liban sous une sorte d'observation internationale. Le tribunal international en est l'un des instruments, la FINUL+ et la 1701 est un autre instrument. Il existe des voix aujourd'hui qui, quand elles parlent, par exemple, et c'est, je pense, le sens de la proposition française au Conseil de sécurité il y a trois jours, et qui, personnellement, m'a fait un peu peur, lorsqu'on pousse le Conseil de sécurité au moment où des efforts arabes sont faits pour médier la crise au Liban et que l'on appuie inconditionnellement le gouvernement Senyora alors qu'il est question de le transformer en gouvernement d'union nationale, je crains qu'il n'ait question peut-être un jour ou l'autre de transformer la 1701 en une résolution de soutien à la légalité libanaise, ce qui entraînerait à ce moment-là la force exécutive de cette résolution 1701, à savoir la FINUL+, en une sorte de force de police interne. C'est peut-être pas le but européen ou le but occidental, c'est en tout cas le but avoué et le desiderata exprimé des forces radicales du 14 mars. Et il y a des déclarations à l'appui de cela. Walid Jumblat, bien avant la crise actuelle, c'est-à-dire au lendemain de la guerre de cet été, avait dit que la 1701 et la FINUL+ étaient mot à mot des forces d'application de l'accord de Taif, ce qui n'est pas du tout, à mon sens, dans le texte de la résolution 1701. Ce sont des déclarations qui se sont répétées directement et indirectement jusqu'à ces quelques derniers jours. Donc je pense que si cette double tendance se confirmait, il serait important pour les acteurs européens de la FINUL Plus de savoir vraiment où ils mettent les pieds. De là, je viens à ce qui a été dit tout à l'heure sur à la fois le couple franco-américain, le couple euro-américain et le couple franco-européen. Je crois qu'il y a ici trois points sur lesquels il faut beaucoup réfléchir. Je crois qu'il est quand même très saisissant de voir, bon, nonobstant le fait que ça se passe à quelques mois de la fin du mandat du président actuel, sauf surprise éventuelle, mais je crois qu'il est intéressant de voir depuis quelques mois la multiplication des initiatives, des discours et des tentatives de compréhension de la façon dont les Européens s'ouvriront sur le couple syro-iranien, essentiellement sur la Syrie. Il est par exemple frappant de voir les dernières 3 ou 4 semaines les visites à la fois du ministre des Affaires étrangères allemand, espagnol, italien, la déclaration de Prodi dans Le Monde, et la façon dont ces déclarations sont systématiquement, pratiquement contredites, et presque vertement parfois, par les positions françaises. Donc je crois qu'il y a là quelque chose à réfléchir au sein de l'institution européenne, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce débat ait lieu à Bruxelles, à savoir qu'est-ce qu'on va faire de la Syrie. Et la question est de savoir, est-ce que le tribunal international, lorsqu'il sera créé, c'est-à-dire dans quelques semaines, sera une arme de changement de régime en Syrie? Si oui, qu'est-ce qu'on va faire? Quel est le roadmap de cette affaire pour le remplacer par quoi? Et sinon, comment faire pour commencer à parler à la Syrie sans pour autant admettre l'ensemble des desiderata syriens? Je crois que c'est un débat que les Européens devraient avoir avec la France et que la France devrait avoir le courage de se poser à elle-même. Et c'est exactement la même chose avec les Américains. Et là, je crois que aussi dans le débat ou dans le ping-pong entre, enfin la controverse ou l'opposition entre Giovanni Levi et Pierre Thénard, j'ai bien peur d'être du côté de Pierre Thénard dans cette affaire. Je crois que le rapport Baker-Hamilton, qui a été pratiquement mis en œuvre sous la pression à la fois de la classe politique américaine, de l'opinion et peut-être d'un certain mécanisme interne, va très rapidement, sinon être enterré, mais du moins être saucissonné, et on va en prendre ce qui probablement dessert l'administration, c'est-à-dire essentiellement des choses techniques et tactiques sur le terrain irakien, en laissant la philosophie générale du rapport Baker, qui au fond veut dire une seule chose, désaméricaniser le projet américain au Moyen-Orient pour l'internationaliser. C'est-à-dire c'est ça un peu le rapport Baker, je crois, la philosophie du rapport Baker. Or, j'ai bien peur qu'on se retrouve au bout du compte dans un scénario, dans une situation où ce sera le nini, spécialité bien française, c'est-à-dire ni l'américanisation, ni l'internationalisation, une sorte de semi-retrait d'Irak qui est un peu annoncé dans les chiffres aujourd'hui, c'est-à-dire un retrait des zones civiles sur des zones militaires, laisser les Irakiens s'entretuer entre eux et généraliser ce modèle à l'ensemble de la région. J'ai bien peur que les débuts ou les prolégomènes de la guerre civile palestinienne qu'on voit depuis hier ou avant-hier devenir pratiquement complète ne soient l'augure malheureuse de ce qui se prépare. D'ailleurs, le roi Abdallah de Jordanie nous l'a annoncé il y a quelques semaines, comme par hasard, ne soit le début de ce qui est prévu à la fois pour l'Irak, pour la Palestine et pour le Liban. Puisque dans un discours il y a quelques semaines, il nous annonçait que la guerre civile allait reprendre dans 3 États de la région, à savoir l'Irak, la Palestine et le Liban. Et là, on est vraiment dans, peut-être pas dans le wishful thinking, mais dans le self-fulfilling prophecy, Pierre. Donc, voilà. Alors, une fois que j'ai dit ça, je voudrais dire, puisque j'ai encore un peu de temps, Khadija, je crois, deux mots sur le global, ou sur les considérations globales qui ont été avancées tout à l'heure. Je suis d'accord avec Giovanni Levi sur le fait de devoir réfléchir à l'avenir de la politique américaine au-delà de l'horizon 2008, mais je ne le suivrai pas dans les conséquences. Je pense qu'il faut aussi dire quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué ici, et je voudrais le mettre sur la table, vu qu'on parle de construction régionale et de macro-stratégie. On a parlé de l'Europe en parlant des États-Unis, mais on oublie de parler suffisamment, je pense, et c'est quelque chose que les acteurs dans la région voient très bien, le retour très fort d'une diplomatie active chinoise et russe. Je prends l'exemple du Liban encore une fois. Le tribunal international sur l'affaire Hariri, par exemple, est aujourd'hui essentiellement géré en opposition par les Russes. Et le travail que la Syrie veut faire, ou que certains pensent que la Syrie fait faire à ses alliés libanais, à savoir le Hezbollah et le général Aoun, est fait en fait par la Russie au Conseil de sécurité. C'est-à-dire que la Syrie n'a pas besoin de manifestations à Beyrouth pour amputer le tribunal international de ses, disons, de ses armes létales. Le travail est fait au Conseil de sécurité par les Russes et les Chinois qui, jusque-là, déjà ont élagué très largement le texte et qui, tous les jours, multiplient les barrages, disons, à l'adoption de ce texte ou du moins à la constitution d'un tribunal qui serait vraiment effrayant pour la Syrie. Donc je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Il y a un retour russe extrêmement fort sur le marché de l'armement, par exemple, sur le marché de la technicité militaire en Syrie, en Iran et ailleurs. Il y a tout un flux commercial, parfois mafieux, qui se fait aujourd'hui entre différents pays de la région, y compris Israël, pour ne pas parler de Dubaï, etc., avec la Russie, ce qui donne à la Russie aujourd'hui beaucoup de leviers politiques et diplomatiques. Je prends un exemple très très épisodique aujourd'hui, par exemple, ou cette semaine. Ce n'est pas fortuit, par exemple, que le premier ministre libanais Sagnoura ait été invité à Moscou, où il s'est rendu ce matin, et que Bachar el-Assad le suive vendredi pour justement essayer de débloquer les choses au niveau syro-libanais. Donc je crois qu'il y a un activisme russe qui est intéressant, un activisme chinois sur lequel je n'ai pas autant de données, mais je pense qu'il est intéressant de voir, et c'est là peut-être qu'il faut réfléchir, pas tellement dans l'inflexion de la stratégie américaine elle-même, puisque je pense qu'il y a quelque chose, républicains et démocrates confondus aux États-Unis, qui est aujourd'hui dans la pente du transformationnisme international. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est intéressant de voir que l'accueil glacial au rapport Baker-Hamilton n'est pas seulement chez les gens comme Rice, etc., mais chez les bipartisans, comme par exemple Joe Lieberman et John McCain, qui comme par hasard, Pierre, sont aujourd'hui ensemble à Bagdad, qui font une mission ensemble à Bagdad, et qui pourraient peut-être former un ticket bipartisan pour les élections prochaines. C'est une éventualité à ne pas exclure, et qui sont complètement justement dans le réinvestissement américain en Irak, ou du moins dans la continuation du chantier américain dans la région. Donc je crois qu'il ne faut pas aller très loin dans les leurres européens sur une sorte de social-démocratie que les démocrates américains porteraient en termes de politique étrangère. Je crois que ce sont des chimères. Mais il faut par contre réfléchir à ce que voudrait dire la fin de la fenêtre de l'unilatéralisme américain à cause d'une montée des autres éléments de bipolarité dans le monde, à savoir la Chine et la Russie. Le deuxième point sur lequel je crois qu'il est intéressant de réfléchir, et ça a été évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'il faut peut-être aller un peu plus loin. Alors vous disiez quelque chose d'intéressant, c'est que aujourd'hui ce n'est pas la norme démocratisante qui est la norme la plus populaire, au moins dans la région, dans les forces dynamiques de la région. Je pense qu'il est essentiel de réfléchir au-delà du caractère provocateur ou anecdotique du type les déclarations négationnistes de Ahmadinejad, à ce que veut dire aujourd'hui le développement au sud, et pas seulement dans le monde arabe, de quelque chose qu'on pourrait appeler les diplomaties contestataires ou les diplomaties déviantes, c'est-à-dire des diplomaties qui assument elles-mêmes leur statut de déviance par rapport à la norme internationale, c'est-à-dire des diplomaties populistes, chauvinistes, nationalistes qui se construisent contre la norme internationale. Et c'est là où on retrouve des axes, à mon avis, très intéressants. Par exemple, Chavez, Najad, Assad, Hamas, Hezbollah, peut-être d'autres en Asie du Sud-Est ou en Ukraine. D'accord ? Ou en Biélorussie, pardon. Par exemple. Donc je crois qu'il y a quelque chose ici de très intéressant à analyser et qui, à mon sens, participe de la dévalorisation de la norme démocratique à l'échelle internationale et qui est très forte dans la région. Bon, je ne vais pas aller très loin, vous voyez tous, je ne sais pas si vous voyez tous Al Jazeera ou autre, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui fait système dans la région et qui explique, par exemple, la montée et la légitimation d'acteurs et de personnes, parfois para-étatiques ou quasi-étatiques, et qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, dans le hit-parade arabe, les personnalités les plus en vue sont Ben Laden, Hassan Nasrallah et d'autres, et pas Abdel Nasser ou un quelconque chef d'État comme dans les années 50 et 60. Donc je pense qu'il y a ici quelque chose d'intéressant qui n'est pas un épiphénomène et qui est, à mon sens, un des phénomènes de résistance à la nouvelle construction régionale entreprise par les États-Unis ou par ceux qui en restent de la région. Donc, je vais m'arrêter ici, j'ai peut-être balayé beaucoup de choses, mais c'est le prix à payer lorsqu'on parle à la fin. Merci.
Merci beaucoup, Joseph Bahout.